Le journal avec Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le nord-ouest de la Syrie est le théâtre depuis ce matin d'une brusque escalade militaire après la mort d'une cinquantaine de combattants dans des affrontements entre forces turques d'un côté et syriennes de l'autre. Ankara réclame l'appui des Occidentaux avec notamment un appel à l'OTAN et menace par ailleurs d'ouvrir ses frontières aux migrants.
La panique s'est emparée des marchés mondiaux.
Oui, les bourses européennes ont à nouveau nettement dévissé à l'ouverture aujourd'hui, plombées par la perspective de conséquences dévastatrices sur l'économie mondiale de l'épidémie de coronavirus. Nous reviendrons également sur le clap de fin pour les journalistes des Cahiers du cinéma. Hier, la rédaction du mensuel emblématique de la Nouvelle Vague a décidé de quitter le magazine en désaccord avec les orientations et le profil de ses nouveaux actionnaires. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Gilles Rivière-Weckstein, rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Avec lui, nous parlerons glyphosate. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
L'antiracisme comme une autre forme de racisme. Elle s'inquiète d'une génération de millennials particulièrement sensible aujourd'hui. La sensibilité est-elle devenue une nouvelle religion? La journaliste Caroline Forest sera avec nous à partir de 12h55 à l'occasion de la parution de son nouvel essai « Génération offensée ».
Merci et à tout à l'heure. Parce que dans le nord-ouest de la Syrie, lorsqu'une éclaircie parvient enfin à percer un ciel assombri, elle n'est généralement rien d'autre qu'une trouée de plus pour permettre à l'aviation de mieux bombarder encore, même les rayons du soleil s'avèrent le plus souvent mortels. Voilà 2 mois maintenant que le régime de Damas, soutenu par son indéfectible allié russe, pilonne inlassablement et plusieurs dizaines de fois par jour la province d'Idleb et ses habitants. Et parce que cette province constitue l'un des derniers bastions djihadistes du pays, les forces pro-syriennes trouvent aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme une arme d'argumentation massive pour justifier leurs exactions. Sauf qu'Idleb est aussi le dernier carré dans lequel sont aujourd'hui retranchés les ultimes rescapés de la contestation contre Bachar el-Assad. Et c'est en partie pour eux donc que la Turquie a déployé une quantité importante de troupes et de matériel militaire pour tenter de stopper l'avancée du régime de Damas. En partie, car en réalité, l'objectif pour Ankara est surtout de pouvoir installer dans cette zone tampon un maximum de réfugiés syriens, en majorité sunnites, et permettre ainsi de mieux diluer la population kurde du secteur et empêcher l'installation durable d'entités autonomes. Quoi qu'il en soit, cette nuit à Idleb, Ankara a donc bombardé plusieurs positions tenues par les forces de Bachar el-Assad, tuant 16 combattants pro-régime, et ce en représailles à des frappes aériennes qui la veille avaient elles-mêmes tué 33 soldats turcs. Une véritable guerre dans la guerre donc, à laquelle s'ajoute désormais une bataille de communication. Selon la Russie, non seulement les soldats turcs n'auraient pas dû se trouver dans la zone de tir, mais surtout ils se seraient trouvés au sein d'unités combattantes de groupes terroristes. De leur côté, les États-Unis, alliés de la Turquie au sein de l'OTAN, ont expressément demandé au régime syrien et à son allié ONU russe de mettre un terme à, je cite, cette odieuse offensive. Aurélien Collier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial en Turquie. Alors on le voit, le risque d'escalade augmente d'heure en heure. Qu'est-ce que vous avez pu vous-même, Aurélien, constater sur place depuis ce matin ?
Alors je me trouve au poste frontière de Reyhanli, tout est calme, franchement la frontière reste fermée pour l'instant, pas de civils arrivant en masse d'Idlib et pas non plus de passage de troupes turques vers la province d'Idlib. En fait, l'essentiel des renforts turcs est déjà dans la province d'Idlib, plus de 6000 hommes, 2000 véhicules. De là où je me trouve, on n'entend pas non plus de bombardements. Cela étant dit, j'ai discuté avec un civil arrivant d'Idlib avec un laissez-passer et lui il décrit une tension à son comble à l'intérieur de la province avec des échanges de tirs d'artillerie direct entre des positions du régime syrien et des positions de l'armée turque. Pour lui, il n'y a aucun doute, on est passé sur le terrain à une autre dimension. Il me disait qu'une position turque était à côté de sa maison dans la campagne d'Idlib. 3 tanks qui ont été pris pour cible et qui ont immédiatement répliqué. Il décrit aussi des unités rebelles prêtes à passer à l'action, prêtes à lancer une offensive terrestre pour reconquérir les zones perdues ces dernières semaines. Ces échanges de tirs d'artillerie, ces bombardements turcs qui ont démarré la nuit dernière après la mort de dizaines de soldats turcs, c'est le début d'une opération beaucoup plus vaste selon lui.
Merci Aurélien Colli, en direct de Reyhanli en Turquie, ville frontière donc avec la Syrie. Alors, la Turquie exhorte désormais la communauté internationale à mettre en place une zone d'exclusion aérienne et menace à présent d'abattre sa dernière carte maîtresse en annonçant ce matin qu'elle n'empêchera plus les migrants qui essayent de se rendre en Europe de franchir la frontière. Alors précisons tout d'abord que par le passé, la Turquie a plusieurs fois menacé déjà d'ouvrir les portes de l'Europe aux migrants. Les observateurs y voyant une manière de faire pression sur les pays de l'Union européenne encore traumatisés par la crise migratoire de l'été 2015. Et puis rappelons ensuite qu'en mars 2016, La Turquie et l'Union européenne avaient conclu un pacte migratoire controversé, en clair une enveloppe de subventions de l'ordre de 6 milliards d'euros en échange de la fermeture des routes de l'exil vers l'Europe. Pacte par lequel Ankara, isolé diplomatiquement, ne se sent visiblement plus tenu aujourd'hui, au point donc de faire de ces réfugiés syriens un instrument de chantage. Les précisions d'Olivier Poujade.
La riposte militaire d'Ankara n'a qu'une valeur symbolique. Le président turc Erdogan seul ne dispose pas des moyens suffisants pour s'engager dans une guerre frontale avec les forces syriennes appuyées par la Russie. Il ne peut pas non plus rester immobile face à l'hécatombe subie par ses troupes engagées sur le sol syrien. C'est donc sur ses alliés qu'Erdogan a choisi cette nuit de mettre la pression sur les membres de l'OTAN dans un premier temps. Ankara a demandé la tenue d'une réunion d'urgence ce soir et sollicitera le soutien militaire des 29 représentants de l'Alliance. L'article 4 le permet dès l'instant qu'une nation partenaire estime que son intégrité territoriale, son indépendance politique ou sa sécurité est menacée. Mais rien ne dit que les ambassadeurs apporteront à la Turquie le soutien militaire qu'elle demande. Le jeu trouble d'Erdogan au sein de l'organisation, son choix de s'armer dernièrement du S-400, système de défense antiaérien russe, a été vécu comme une trahison par les autres membres. Le président turc choisit donc d'abattre sa deuxième carte, celle de l'ouverture des frontières. Le drame d'Idlib accentue la pression migratoire sur la Turquie, tenue depuis 2016 et la signature de ce pacte controversé de prendre en charge les réfugiés syriens fuyant les bombardements. Erdogan agite donc le spectre d'une nouvelle crise migratoire vers l'Europe pour forcer la main de l'OTAN. Les pays européens céderont-ils au chantage? Ce sera l'interrogation des prochaines heures. La Grèce, en première ligne dans ce dossier, a décidé d'ores et déjà de doubler ses patrouilles à sa frontière avec la Turquie pour contenir une éventuelle reprise des traversées de migrants encouragés par Erdogan.
Alors, et enfin, toujours s'agissant donc des conséquences de cette crise syrienne complexe impliquant de très nombreux acteurs et aux multiples enjeux, notons que si le fameux pacte migratoire de 2016 avait fait chuter drastiquement le nombre de passages, notamment vers la Grèce, ce n'est plus le cas ces derniers mois. Athènes a noté au contraire une hausse des arrivées. L'an dernier, la Grèce est même redevenue la première porte d'entrée en Europe des demandeurs d'asile. Or, devant l'augmentation donc du flux migratoire, le gouvernement conservateur à Athènes avait annoncé, c'était en novembre dernier, que les camps surpeuplés en mer d'Égée, dans des conditions sordides, seraient fermés cette année, remplacés par de nouvelles installations. Sauf que les habitants des îles, eux, s'opposent à la construction de nouveaux camps et réclament le transfert des migrants sur le continent, ce que se refuse à faire le gouvernement, qui s'entête à privilégier une rhétorique électoraliste, d'où ces derniers jours des scènes de violence inédites entre insulaires d'un côté et forces anti-émeutes de l'autre. Nigeria, Lituanie, Bélarus, Nouvelle-Zélande, on ne compte plus les nouveaux cas de coronavirus qui apparaissent chaque jour dans le monde, au point que le nombre de nouvelles contaminations à l'étranger a désormais dépassé celui en Chine. Alors c'est particulièrement vrai en Corée du Sud, où 571 personnes diagnostiquées positives au nouveau coronavirus ont été enregistrées en seulement 24 heures. Partout, les gouvernements multiplient les mesures de précaution. Ce matin, le Pakistan a suspendu tous les vols directs avec l'Iran, deuxième foyer de contagion au monde. De son côté, la Suisse a décidé aujourd'hui d'interdire au moins jusqu'au 15 mars tout événement public ou privé réunissant plus de 1000 personnes et notamment le prochain salon automobile de Genève. Enfin, au Japon, là-bas aussi, le coronavirus a conduit à des mesures drastiques et inédites. Ce matin, le parc à thème Tokyo Disneyland, qui accueille pas moins de 32 millions de visiteurs par an, a décidé de fermer pour 2 semaines. Et hier soir, le Premier ministre a appelé à la fermeture pour plusieurs semaines de toutes les écoles primaires, les lycées et les collèges du pays. Une mesure destinée à endiguer donc les critiques de laxisme, mais qui ne réjouit pas forcément les parents, comme en témoigne ce reportage à Tokyo de notre correspondante Karine Nishimura.
Au petit déjeuner, devant les écoles, sur les quais de gare, sur les réseaux sociaux, c'était le principal sujet de conversation. La fermeture des établissements scolaires demandée par le Premier ministre Abe jeudi soir a semé la stupeur dans les familles. Madame Ito est maman de 2 enfants de 4 et 7 ans.
Je suis vraiment en colère. À l'école, c'est la confusion totale. J'aurais bien aimé que le gouvernement réfléchisse davantage aux conséquences avant de formuler une telle requête.
La mesure est certes saluée comme sans doute inévitable pour certains établissements, mais trop radicale et soudaine. Elle tombe mal car au Japon, c'est la période des tests et cérémonies de fin d'année scolaire. Même les élus et enseignants ont appris la nouvelle par les médias. Alors que les autorités poussent parallèlement les maires à davantage travailler, elles se sentent cette fois bien démunies, comme Maki.
Mon entreprise ne permet pas le télétravail et comme je n'ai personne à qui confier mes enfants, je dois prendre des congés.
La confusion est d'autant plus grande que le gouvernement a aussi demandé aux jardins d'enfants et aux garderies d'ouvrir. Or, la plupart de ces dernières se trouvent dans les mêmes établissements scolaires.
Alors, les craintes face à la propagation de cette épidémie de coronavirus à travers la planète ont provoqué également un véritable vent de panique sur les bourses mondiales. Toutes les places européennes ont ouvert la séance de ce vendredi en forte baisse. Dans le sillage des marchés asiatiques qui, de Tokyo à Shanghai, ont tous dévissé à la clôture. Au point que si cette dégringolade venait à se poursuivre, eh bien, elle pourrait atteindre dès ce soir la plus forte perte hebdomadaire depuis le pic de la crise financière de 2008. À ce titre, je vous propose d'écouter l'analyse de François Chollet, directeur général de la société de gestion Montségur Finance, joint au téléphone par Anne-Laure Jumet.
C'est pas loin de ce qu'on appelle des séances noires, puisque des replis de l'ordre de 4% sur les indices larges européens ou sur les indices américains nous rappellent des souvenirs dignes des années difficiles, et je pense par exemple à l'année 2008 où on avait connu effectivement des replis sur une semaine de cette ampleur. Aujourd'hui, les banques centrales ont expliqué qu'à très court terme en tout cas, elles n'envisageaient pas de mesures exceptionnelles sur les taux d'intérêt pour venir redonner de l'espoir aux investisseurs, et je pense que c'est ce qui aujourd'hui précipite cette correction. Je pense par exemple à la Banque centrale chinoise qui est attendue au tournant dès lors que l'activité sera en capacité de repartir en Chine pour venir la soutenir par une politique extrêmement volontariste. Cela pourrait être de même concernant la zone Europe. C'est vrai qu'il sera demandé a priori dans l'année à ce que des mesures soient prises pour venir soutenir l'activité en zone euro. Et puis le gros concerne les États-Unis, pour lequel aujourd'hui rien n'a été fait ni annoncé à court terme pour venir endiguer ces risques. Et donc les investisseurs deviennent pressants et ont besoin et auront besoin de ce point de vue-là d'un soutien de la part de la Banque centrale pour venir reprendre du risque sur les marchés et stabiliser ce mouvement.
Voilà, François Chollet, directeur général de la société de gestion Montségur Finance. Il répondait à Anne-Laure Jumet. S'agissant à présent du cas de la France, 20 nouveaux cas ont été diagnostiqués hier, portant à 38 le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus. Et parmi ces 20 nouveaux cas diagnostiqués positifs, donc 12 l'ont été dans l'Oise, où une équipe d'urgentistes et d'infectiologues doit d'ailleurs se rendre aujourd'hui pour poursuivre et renforcer les investigations. Là-bas, une véritable course à la recherche de la chaîne de contamination et notamment du fameux patient zéro a commencé. Rappelons que sur les deux premiers patients connus dans le département, l'homme de 60 ans décédé dans la nuit de mardi à mercredi à la Pitié-Salpêtrière à Paris avait d'abord été hospitalisé à Creil pendant 6 jours. Quant au second patient, il est lui actuellement en réanimation au CHU d'Amiens après avoir été hospitalisé dans un premier temps à Compiègne. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Quelle est aujourd'hui, Tara, la situation donc dans les deux hôpitaux où ont transité ces malades?
D'abord, ce sont les syndicats, en l'occurrence la CGT, qui communiquent. Les directions des deux hôpitaux qui ont constitué des cellules d'urgence se retranchent derrière leur tutelle, l'Agence régionale de santé. Alors à Compiègne, une centaine d'agents identifiés comme en contact avec le premier malade aujourd'hui hospitalisé à Amiens sont tous confinés. Conséquence, deux services sont fermés depuis hier soir, un service de chirurgie et le service d'endocrinologie. La réanimation reste ouverte. L'ARS annonce l'arrivée de deux réanimateurs en renfort venus d'Amiens et de Lille. L'agence a aussi promis rapidement des gels hydroalcooliques, des masques supplémentaires. Il y en a encore, mais ça part très vite, disent les soignants. Tout le personnel confiné, la centaine de personnes, donc, a subi des tests hier, raconte la secrétaire de la CGT. Mais les laboratoires ne font qu'une trentaine de diagnostics à la fois, dit-elle, et on n'a pas encore les résultats.
Voilà, et puis à Creil, Tara, le plan blanc a aussi été déclenché après le confinement de 80 agents hospitaliers.
Oui, 30 infirmières, 24 aides-soignants, 15 médecins, etc., qui doivent rester chez eux. Le service de réanimation est fermé à Creil. C'est là que l'enseignant décédé a été hospitalisé pendant 6 jours. À Creil aussi, l'ARS a promis des masques et du gel. Mais d'après Sylvie Poiré de la CGT, aucun test de dépistage n'a encore été effectué sur les 80 agents hospitaliers. Peut-être parce qu'il est trop tôt, croit savoir la syndicaliste, ces tests pourraient déboucher sur des faux négatifs. En tout cas, la vigilance est de mise à Creil, car l'hôpital attend aussi le résultat de tests sur 2 autres patients qui ont transité, l'un au moins, par les urgences de Senlis. Reste à savoir s'ils sont donc atteints du coronavirus. Le syndicat a tenté de joindre le médecin de veille sanitaire de l'ARS à propos de ces deux malades. Pour l'instant, sans résultat. Il faut quand même rappeler que Compiègne travaille à flux tendu et qu'à Creil, les urgences sont en grève depuis depuis un an. La crise actuelle aggrave donc la situation. La CGT s'interroge. Que se passerait-il en cas de catastrophe si un train, par exemple, devait dérailler? Le syndicat ne connaît pas, par exemple, le nombre de lits disponibles dans les services de réanimation du département.
Merci Tara Schlegel. Enfin, toujours s'agissant de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, j'ajoute que près de 2000 élèves français de retour de zone à risque ont été invités à rester chez eux pendant 14 jours. C'est ce qu'a fait savoir ce matin le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, étant entendu que ce chiffre devrait probablement augmenter avec le retour d'une nouvelle zone de vacances scolaires. Sur l'écran noir de leur nuit blanche, ils avaient diffusé un premier communiqué d'alerte et finalement hier, l'ensemble de la rédaction des Cahiers du cinéma a décidé de claquer la porte, faisant jouer la clause de conscience. Celle-ci permet aux journalistes de quitter une publication en cas notamment de modification de la ligne éditoriale de l'organe de presse. Or, après que le mensuel mythique du 7e art a été repris par une vingtaine de producteurs et patrons, les 18 rédacteurs rejettent la volonté de transformer le titre fondé en 1951 en revue chic et cordiale. En clair, ils dénoncent le nouvel actionnariat, comme l'explique Stéphane Delorme, rédacteur en chef des Cahiers depuis 2009, joué en téléphone par Éric Chavreau.
Le 31 janvier, on a appris qu'un assemblage de producteurs français et d'hommes d'affaires achetaient les Cahiers du cinéma. Et immédiatement, évidemment, la rédaction s'est réunie. On s'est dit qu'on ne pouvait absolument pas travailler avec des producteurs de cinéma. On est une revue critique. On est censé être libre, indépendant, parler des films indépendamment, évidemment, des producteurs, même indépendamment des réalisateurs. On juge les films au cas par cas. Et avoir parmi les propriétaires 8 producteurs, et parmi lesquels un des plus gros producteurs de cinéma français d'auteur, Pascal Cocheteux, posait un problème vraiment de conflit d'intérêts tellement énorme qu'il nous semblait impossible de rester. Ensuite, on a beaucoup discuté entre nous, on a fait beaucoup de réunions, parce que la rédaction est très soudée, et c'est pour ça qu'on a fait un communiqué collectif. On voulait être tous d'accord, que tout se passe bien entre nous, c'était très important, parce que ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble. Par ailleurs, il y a aussi pas mal d'hommes d'affaires dans ce petit conglomérat et on retrouve les mêmes noms que d'habitude, Xavier Niel, Alain Veil, et on veut protester contre ça aussi. On en a assez que les mêmes rachètent tous les titres de presse. Ça pose en permanence un problème de suspicion. Et nous, BFM, on en dit du mal à longueur de page. Est-ce qu'on nous laissera toujours le faire? On ne sait pas. Mais même, soyons cohérents, si on dit du mal de BFM à longueur de page, on va pas nous-mêmes être payés par Alain Veil. Toute cette confusion dans laquelle baigne le milieu parisien, on peut pas l'accepter. C'est une question d'abord de principe, de dire non, quoi. Voilà, de dire la presse doit être indépendante, libre.
Voilà, Stéphane Delorme, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, joué en téléphone par Éric Chavreau. Et puis j'ajoute que la situation au Cahier, donc c'est aussi un article à lire en une de notre site franceculture.fr. Après la récente et fracassante démission du conseil d'administration de l'Académie, la 45e cérémonie des Césars se tiendra ce soir sous haute tension, sans compter qu'outre les réformes attendues de l'institution, la grand-messe annuelle du cinéma français bruissera aussi sans doute des dernières révélations d'Adèle Haenel, nommée au César de la meilleure actrice et qui récemment, en brisant la chaîne du silence avec ses révélations autour d'attouchements qu'elle aurait subi de la part d'un réalisateur, a provoqué un séisme dans le cinéma français, sans oublier bien sûr les vives protestations contre les 12 nominations du J'accuse de Roman Polanski, lequel a d'ailleurs annoncé qu'il ne se rendrait pas ce soir à la cérémonie. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Gilles Rivière-Weckstein, rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement et auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier est intitulé « Glyphosate, l'impossible débat » paru aux éditions Le Publieur. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger. Anne-Laure Chouin, bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Une première question, monsieur Rivière-Weckstein. Pourquoi le débat s'est-il cristallisé depuis plusieurs années déjà autour de ce seul glyphosate alors qu'on le sait, nombre d'autres produits sont a priori beaucoup plus dangereux?
Absolument. Non seulement ils sont beaucoup plus dangereux, mais celui-là est de loin le moins dangereux. Donc s'il y en a un parmi tous les pesticides et herbicides qu'il faudrait garder, c'est bien le glyphosate.
Alors, dans votre livre, la thèse, on va dire, de votre enquête, c'est que là, ce que vous appelez en tout cas la manipulation de l'opinion publique européenne à propos du glyphosate, elle est en fait partie depuis les États-Unis. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment?
Alors, il faut, pour retracer les choses correctement, il y a toujours eu dans l'imaginaire collectif une mauvaise presse vis-à-vis de Monsanto, donc l'entreprise qui a développé cet herbicide. Et donc, c'est vrai que les herbicides, les pesticides n'ont pas bonne presse, et donc on a affaire là à ce qu'on pourrait appeler le coupable idéal. Alors, mais ceci dit, il y a 5 ans, tout le monde avait un bidon de Roundup, enfin tous les jardiniers avaient un bidon de Roundup chez soi, ça posait pas de problème, on l'utilisait, et franchement, c'était un non-sujet. Alors, c'est devenu un sujet, oui, à partir de 2 éléments. Le premier élément, c'est lorsque le CIRC, donc le Centre International de Recherche sur le Cancer, qui s'occupe de la classification pour savoir ce qui est cancérigène ou pas.
Qui est une agence de l'OMS.
Une agence de l'OMS, et de l'OMS. Et donc, a déclaré qu'il, après une étude, qu'il était cancérigène probable. Alors, je vous rappelle que l'eau chaude, par exemple, les boissons chaudes, c'est cancérigène certain. La charcuterie, cancérigène certain. Ce n'est pas une évaluation pour savoir s'il y a un risque, mais c'est simplement est-ce qu'il y aura un mécanisme ou pas. Cet avis a été comme une bombe atomique dans le domaine de l'homologation, et toutes les agences sanitaires ensuite se sont penchées sur ce problème en se disant est-ce que nous sommes passés à côté de quelque chose. Alors, je vous rappelle que depuis 5 ans, toutes les agences sanitaires donc qui homologuent les produits sont absolument en désaccord avec cet avis et continuent de dire ben, pour nous, absolument pas cancérigène probable. Donc ça a été le point de départ. Ce point de départ a été quelque chose d'idéal, d'une part pour tous les gens qui, en gros, voulaient se faire la peau de Monsanto, mais aussi aux États-Unis pour des cabinets d'avocats qui sont des spécialistes dans ce qu'on appelle les class action. Alors il faut bien comprendre qu'ils y vont contre tout le monde. Hein. Nutella, par exemple, a été condamné à 3 millions de dollars parce que une consommatrice de Californie disait qu'elle n'avait pas été suffisamment informée sur le fait que c'était gras.
Il y a eu des procès retentissants et qui ont donné raison à ces avocats puisque Monsanto a été condamné à des très fortes amendes.
Mais attendez, parce que pour venir sur cette question-là, c'est que donc à partir du moment donné où le CIRC a fait cette déclaration, les cabinets d'avocats se sont dit ben là on a un cas intéressant puisque les gens qui ont des cancers, il y en a plein, les gens qui utilisent du glyphosate, il y en a plein, et donc on va faire une campagne de recrutement. Et donc ils ont recruté des gens en mettant des annonces, en disant « Est-ce que vous avez un cancer? Est-ce que vous avez utilisé le glyphosate? Venez nous voir, nous, on va vous donner de l'argent. »
Pour faire des litiges de masse.
Litiges de masse. Et donc, on en est aujourd'hui à 40 000 litiges de masse. À partir de là, ils ont développé tout un argumentaire pour essayer de convaincre les jurys d'avoir raison, bien entendu. C'est une bataille juridique aux États-Unis. Et dans cette bataille juridique, l'enjeu, c'était quoi? C'était « Est-ce que l'avis du CIRC, il est correct ou pas ?» Or, pour qu'il soit correct, il fallait bien expliquer que tous les avis de toutes les autres agences du monde n'étaient pas corrects, qu'elles s'étaient trompées. Et ce sont ces cabinets d'avocats qui ont développé tout l'argumentaire qu'il y a aujourd'hui dans notre inconscient. L'idée que Monsanto a été capable de corrompre toutes les agences du monde, que ce produit est dangereux, qu'on ne sait pas, qu'il faut attention. Et c'est ça, c'est cette campagne, moi, ce que j'ai montré dans mon livre, c'est comment l'argumentaire, les éléments de langage, comme on dit, de ces cabinets d'avocats, se sont retrouvés dans la presse principalement européenne.
Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement, c'est un sujet juridique aux États-Unis. En France, plus particulièrement, et en Europe, c'est devenu un débat d'opinion publique très passionnel. Vous dites qu'il n'existe pas aux États-Unis. Il n'y a pas d'enjeu sur glyphosate aux États-Unis. Dans l'opinion publique, il y en a un en Europe. Alors, comment vous expliquez la différence?
Parce que il y a eu un terrain fertile à ce genre de campagne en France. Mais effectivement, comme vous dites, ce qui est très intéressant, c'est que personne aux États-Unis demande la suppression du glyphosate. Les avocats américains ne demandent pas la suppression du glyphosate. Eux, ce qu'ils veulent, c'est encaisser entre 10 et 20 milliards de dollars, sachant qu'ils ont une commission de 10%, donc je vous dis pas les enjeux pour eux, hein, parce que 10% de 20 milliards, ça fait quand même 2 milliards. Donc eux, ils ne demandent pas l'interdiction. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que Monsanto, maintenant Bayer, puisque Bayer a racheté Monsanto, soit condamné. Donc on ne demande pas l'interdiction du glyphosate. Et en France, on demande l'interdiction du glyphosate. Donc finalement, principe de précaution, c'est autre chose. Là, on a toutes les agences sanitaires qui vous disent qu'il n'y a pas de problème. Donc principe de précaution, non. Principe de précaution, c'est quand les agences sanitaires ne savent pas trop. Là, elles vous disent tout. Ça fait 40 ans qu'on a regardé cette molécule. C'est la molécule qui est la plus étudiée de tous les pesticides. Donc ils nous disent clairement, non, il n'y a pas de danger. Et l'ANSES, encore aujourd'hui, continue à vous le dire. Hein. Donc soyons clairs et nets. Donc, Voilà. Ce qui est grave dans cette histoire, c'est que les agriculteurs français risquent d'être les dindons de la farce, puisque finalement, on va interdire ce produit chez nous.
Alors, est-ce que ça ne les force pas quand même à trouver des alternatives, là où il y en aurait peut-être, il y aurait eu peut-être moins de recherches sur des alternatives s'il n'y avait pas eu ce débat?
Écoutez, ça fait 40 ans que ce produit existe. Je peux vous assurer que ça fait 40 ans qu'il y a une course pour avoir des alternatives à ce produit. Et si on n'en a pas trouvé, c'est que c'est parce que c'est un très 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 bon produit et en plus de ça, pas très cher. Donc je pense que les agriculteurs aujourd'hui, s'ils avaient une alternative, ils l'utiliseraient parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne l'utilisent pas.
Alors ça commence à venir, ça commence à venir. La recherche s'est développée.
Et on s'arrêtera là. Merci Gilles Rivière avec Stein,
merci.
Rédacteur de la revue Agriculture et Environnement, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Glyphosate, l'impossible débat. Et merci également à Anne-Laure Chouan. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, globalement marqué par une alternance de nuages et d'éclaircies, parfois interrompues par de faibles pluies. Quant aux températures, elles afficheront entre 7 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.